Puis, on va aller dans Hébreux chapitre 7, versets 11 à 22. Hébreux chapitre 7, versets 11 à 22. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédec et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous espérons, nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré et il ne s'en repentira point, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Alors j'ai intitulé le message aujourd'hui « Le sacerdoce de Christ » est infiniment supérieur à celui d'Aaron. Alors, on parle dans le texte de la sacrificature lévitique. En quoi consistait-elle? Consistait à mettre les mains sur la tête d'un animal, tuer l'animal, le faire brûler. Et c'est tout ce qu'on avait vu dans l'Ancien Testament quand on a fait notre étude sur le tabernacle. Alors, le sacerdoce de Christ est infiniment supérieur à celui d'Aaron. S'il est infiniment supérieur, c'est parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux cherche à convaincre les Hébreux qu'il faut qu'ils abandonnent l'ancien système, donc ça nécessite un changement. Donc on va regarder ça sous l'angle suivant, c'est pourquoi il doit y avoir un changement. La première chose qu'on va regarder, la nécessité du changement, versets 11 à 14. Deuxièmement, on va regarder la rationalité du changement. On se base sur quoi? On se base sur quelles écritures? On se base sur quels faits pour justifier qu'on change de système? Parce que pour les Juifs, c'était pas évident. Ça faisait 1500 ans qu'ils pratiquaient cette façon de faire, là, pour s'approcher de Dieu, pour se réconcilier avec Dieu. Et là, ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de leur dire, c'est fini, ça. C'est aboli. Il faut changer ça. Alors, tu ne pouvais pas convaincre les Juifs sur la base de n'importe quel argument. Il fallait que tu leur amènes des arguments d'une très grande solidité. Donc, la rationalité, c'est « Je vous dis qu'on doit faire un changement, mais voici sur quoi je me base. » Alors, c'est ça que l'auteur va développer dans le texte. Et dans le verset 19 à 22, on va voir la solidité du changement. Non seulement c'est nécessaire de changer, je vais vous dire pourquoi, mais je vais vous dire que vous gagnez au change en adoptant la nouvelle alliance et en adoptant le nouveau souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ lui-même, étant Dieu. Alors, à venir jusqu'ici, si ceux qui ont été présents depuis le début, depuis qu'on a commencé à étudier l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a démontré jusqu'ici l'infinie supériorité de Christ sur les prophètes de l'Ancien Testament, sur les anges. Pour les Juifs, les anges étaient les personnages, quand il envoyait un apparaître, il était porté à l'adorer. Il tomberait sur leur face. Et il est en train de dire ici, les anges, OK, c'est des grands, c'est des êtres importants et qui sont impressionnants au point que quand vous envoyez un, vous êtes porté à vouloir l'adorer. Jésus-Christ est infiniment, on pèse les mots, là, infiniment supérieur aux anges. Infiniment supérieur aussi à un de leurs personnages qui était un personnage clé pour les Juifs, le personnage de Moïse. Pour eux, Moïse, c'était un personnage extraordinaire. Et c'est vrai qu'il est extraordinaire. Mais si on compare Moïse à Jésus-Christ, là, Moïse ne fait pas le poids, parce que Moïse est un homme, malgré qu'il ait été utilisé par le Seigneur. Ici, il leur a démontré dans les chapitres précédents, il leur a démontré aussi la supériorité infinie de Jésus-Christ sur le personnage de Josué. Josué, on sait que c'est le personnage que Dieu, après que Moïse est mort, celui qui l'a remplacé, c'est Josué. Josué a eu comme mission de faire sortir le peuple et de les emmener dans la terre promise. Alors, c'était un leader militaire. Il s'est battu contre des nations. Le Seigneur avait dit, fais ça, fais ça, fais ça. Il l'a fait, il a obéi, et ils ont récolté. Alors, il voulait leur montrer qu'il était supérieur à Josué. Et là, il est en train de prendre un autre grand personnage de l'Ancien Testament, Aaron, qui était le premier souverain sacrificateur. Quand le Seigneur a institué le système des sacrifices d'animaux, il a nommé un souverain sacrificateur. Et ce souverain sacrificateur-là avait une fonction bien particulière. On va les voir tantôt, ces choses-là. Et depuis le début, on a vu à quelques passages un peu la supériorité de Jésus sur Aaron. Mais là, il commence à le développer plus. On l'a vu dans certains passages, on pourrait y retourner. Mais là, il commence vraiment à développer cette idée-là. Parce que le but, c'est de leur faire abandonner le système de sacrificature lévitique et de leur faire adopter Jésus-Christ en voulant dire, « Ayez pas peur d'abandonner ça, c'est terminé. » Ça l'a eu, sa fonction, ça l'a eu. Le Seigneur a inventé ça, il savait que c'était imparfait, il savait que, mais ça avait c'était comme un pédagogue, il y avait des choses à montrer qui pointaient vers Christ. Mais après que Christ est arrivé, il faut que tu abandonnes ça. Alors c'est ça qu'il va faire dans les prochaines. Alors ici, il va maintenant continuer à développer la nécessité d'abandonner le sacerdoce à la manière d'Aaron pour le remplacer par le sacerdoce de Christ. Il va expliquer les raisons du changement et comment les Juifs nouvellement convertis au christianisme sont infiniment favorisés par cet échange. Il fallait qu'il leur démontre ça. Parce que si tu abandonnes un système comme ça puis tu n'as d'adapter un autre, il faut que tu gagnes au change, comme on dit. Alors, l'auteur avait déjà expliqué que Christ avait reçu l'autorité de Dieu le Père lui-même dans le psaume 110, verset 4. Vous vous souvenez que le problème avec eux, c'est quand ils ont vu Jésus, ils ont vu un homme, et il n'était pas un souverain sacrificateur, pour la simple et bonne raison qu'il venait de la tribu de Juda. On sait que les Juifs avaient 12 tribus. Tous les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs, il fallait qu'ils viennent de la tribu de Lévi. Mais pour être souverain sacrificateur, il fallait que tu sois un descendant d'Aaron lui-même, il fallait que tu prouves par ta généalogie, de père en fils, il fallait que tu te rendes que pour porter le titre de souverain sacrificateur. Jésus était de la tribu de Juda. Donc, pour les Juifs, ça le disqualifiait. Alors, il fallait qu'il leur démontre que l'autorité de devenir souverain sacrificateur, ce n'était pas lui-même qui se l'était arrogé. Il l'avait reçu de Dieu le Père lui-même. Et il y avait des indications dans l'Ancien Testament, à la fois dans la Genèse et à la fois dans le livre des Psaumes, qu'il y aurait un nouvel ordre pour le souverain sacrificateur, et ce serait l'ordre de Melchisédek. On l'a commencé à développer un petit peu. Et ça le disait dans le psaume 110, verset 4, l'Éternel l'a juré. Alors, les mots sont forts. L'Éternel l'a juré. Pourquoi l'Éternel a-t-il besoin de jurer? L'Éternel ne dit jamais de mensonge. Jamais. Et rien de mensonge à passer. Mais quand il jure, ça veut dire que, écoutez ce que je suis en train de dire, parce que ça a vraiment de l'importance et du poids. L'Éternel l'a juré. Et en plus, pour démontrer que cette chose-là ne changera pas, il dit, et il ne s'en repentira point. Ça veut dire, il ne changera pas d'idée. Le décret est fait, la décision est prise qu'il va y avoir une nouvelle forme de souverain sacrificateur. Et là, il parle à Christ dans le contexte, on va étudier le psaume 110, il parle à son fils. C'est le Seigneur, Dieu le Père, qui parle à son fils et il lui dit la phrase suivante. « Tu es sacrificateur pour toujours » et lui dit « à la manière de Melchisédek. » Alors, il n'est pas en train de dire qu'il y a, il y a deux ordres de sacrificature, Aaron et Melchisédek. Pourquoi le Seigneur a donné une exception dans l'Ancien Testament qu'un roi pouvait devenir sacrificateur? Pour la simple et bonne raison qu'il commençait à vouloir expliquer que Jésus-Christ avait une caractéristique particulière, celle d'être à la fois roi et à la fois sacrificateur. On se souvient dans l'Ancien Testament, ceux qui ont lu l'Ancien Testament, le roi Ozias avait voulu éventuellement entrer et offrir des sacrifices. Qu'est-ce qui avait arrivé? C'était pour montrer la sévérité de Dieu. Dieu ne permettait pas qu'une personne qui ne soit pas de la tribu de Lévi offre des sacrifices. C'était sévère. Qu'est-ce qui est arrivé? Souvenez-vous? La lèpre au front. Alors, le Seigneur a permis la lèpre, c'est vraiment un symbole de très grand péché. Pourquoi il l'a mis sur son front? Parce que le front, c'est la marque de l'orgueil du roi. Il avait voulu faire ça, les sacrificateurs sont rentrés, ils ont dit, « Ozias, tu n'as pas le droit de faire ça parce que tu n'es pas de la tribu de Lévi, tu n'es pas un sacrificateur. » Et là, Ozias s'est fâché, mais on voit que le Seigneur, on reverra un petit peu ça. Alors, le but, pourquoi le Seigneur avait présenté qu'il y avait un sacrificateur qui avait été autorisé dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, c'était tout simplement parce qu'on ne dit pas ici qu'il y avait un nouvel ordre de sacrificateur. Il dit « à la ressemblance ». Le mot-clé est « la ressemblance ». Melchisédek était un homme, mais Dieu, dans ses Écritures, n'a pas permis qu'on connaisse ses antécédents, ni ses successeurs. Alors, c'est vraiment qu'il voulait pointer vers certaines caractéristiques de la sacrificature de Christ. Alors, on va continuer le développement de ça. Alors, Jésus n'avait donc pas besoin d'être de la tribu de Lévi. Il était de la tribu de Juda. Et il avait été mandaté par cette fonction de souverain sacrificateur par Dieu le Père lui-même. On peut-tu avoir reçu une autorité plus forte et plus haute que ça? Impossible. Alors, les trois premiers versets du chapitre 7 avaient illustré la très grande dignité du personnage de Melchisédek, à qui Abraham avait payé la dîme et avait reçu la bénédiction du roi, qui était à la fois roi et sacrificateur. Normalement, celui qui bénit est supérieur à celui qui reçoit la bénédiction. Et ce qu'on avait vu dans le texte la semaine passée, c'est que dans les reins d'Abraham, c'est vrai, c'était quelques années après, là. Lévi était dans les reins d'Abraham, et lorsqu'Abraham a reconnu la supériorité de Melchisédek, il se trouvait à la reconnaître lui-même. Alors, le fait que le Saint-Esprit avait caché la généalogie, la descendance et le moment de la mort de Melchisédek était intentionnel par le Seigneur et pointait vers le fait que l'antitype, qui est Jésus-Christ, on a vu ça la semaine dernière, je ne sais pas si vous souvenez-vous de ça, les six choses. Alors, jouissait d'une sacrificature éternelle et permanente. Alors, l'infinie supériorité de Jésus-Christ sur Melchisédek avait été démontrée par le fait que Melchisédek était un homme mortel, tandis que Christ est divin, et que sa personne et sa sacrificature sont immortelles, permanentes et divines. On va se rafraîchir la mémoire, on va vous laisser une chance un peu, même si ça fait quatre fois, elle dit. Des fois, ça prend au moins 15 fois avant qu'on retienne. Il y a six choses. Si je vous les demandais, est-ce que votre mémoire serait fidèle? On va le regarder. Rafraîchissons-nous un peu la mémoire sur ce qu'est un type et un antitype. Parce que c'est bien important de comprendre que pourquoi le Seigneur avait mis le personnage de Melchisédek dans l'Ancien Testament, pourquoi le Seigneur avait institué le système sacrificiel d'Aaron, parce que c'était un type du Christ à venir. Alors, un type, c'est une personne, un événement ou une chose de l'Ancien Testament. Melchisédek, l'Ancien Testament, Aaron, l'Ancien Testament. On a parlé d'une personne, on a parlé d'un événement aussi, on pourrait parler de la Pâque, on pourrait parler d'une chose, le tabernacle, c'était une chose, c'était pas une bâtisse, mais c'était fait avec du bois. Alors, c'est une personne, un événement ou une chose de l'Ancien Testament. Donc, est-ce que ça correspond? Premier point, oui. Deuxième point, ayant eu une réalité historique, est-ce que Melchisédek existait dans le passé? Dans le livre de Genèse, il nous dit oui. Est-ce que Aaron, comme personne, a existé? Il y a eu une réalité historique. Le troisième point, c'est que le Seigneur a mis ces choses-là dans l'Ancien Testament avec une intention divine. Le but de l'introduction de ces personnages-là, c'était de montrer certaines choses concernant Christ. L'intention. Il y avait l'intention de démontrer certaines choses concernant Christ. L'autre, c'est que ça faut que ça contienne un élément prophétique. L'élément prophétique, c'est Dieu qui est en train de dire, voici dans l'avenir, il va venir une personne qui va accomplir toutes les choses vers lesquelles ces choses-là pointent ou sont des symboles. Alors, contenant un élément prophétique ou préfigurant, ça préfigure Christ. Quatrième chose, dont on trouve l'accomplissement par quelque chose de plus grand et de supérieur dans le Nouveau Testament. Alors, toutes les choses qui concernent ces choses-là, tu trouves quelque chose dans le Nouveau Testament, tu trouves quelque chose de plus grand et de supérieur. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ lui-même, l'homme-Dieu. Et, sixième chose, l'antitype, c'est toujours la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, quand on regarde les types de l'Ancien Testament, on pourrait en faire une longue liste. Mais toutes ces choses-là pointaient vers une seule personne. L'antitype, c'est toujours, 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 toujours la personne de Jésus-Christ. Tout le temps. Alors, ça avait été introduit dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, et ça pointait vers quelque chose, ça prophétisait quelque chose vers un personnage à venir. Et il faut, pour que le type soit reconnu comme tel, que le Nouveau Testament le désigne comme étant un type. Alors, voyez-vous, il faut que ça rencontre six choses. Et si on regarderait Melchisédek, si on regarderait Aaron, tout ce qu'on vient de nommer, ça les rencontre. Et le Nouveau Testament nous parle de Christ comme étant supérieur à Aaron. Et non seulement un peu supérieur, mais infiniment supérieur. Voici quelques exemples de personnes étant des types. Aaron et Melchisédek. Il y en a d'autres, mais on va commencer juste par ces deux-là, parce que c'est ceux-là qui nous occupent. Voici quelques exemples d'événements étant des types. La Pâque juive, les fêtes juives, le sabbat. Voici quelques exemples de choses étant des types, étant des choses. Le tabernacle, le voile du temple, les offrandes et les sacrifices du livre de Lévitique. Quand, si vous allez étudier le livre de Lévitique, si une personne ne fait pas un lien avec le Christ à venir, que c'est des choses qui symbolisaient des choses à venir avec Jésus-Christ. Moi, je me souviens la première fois que j'ai lu Lévitique. Qu'est-ce que c'est ça, ces affaires-là? C'est vraiment pas facile à comprendre, Lévitique, là. C'est pas le livre le plus facile à comprendre de la Bible dans l'Ancien Testament. La clé de tout l'Ancien Testament, c'est chercher le Christ. Le Christ, c'est le thème des Saintes Écritures, et toutefois, parfois quand on lit les Saintes Écritures, ça parle toujours de Christ d'une façon ou d'une autre. Quand on comprend ce principe-là, puis qu'on lit l'Ancien Testament, puis qu'on ne comprend pas, on peut se poser la question, qu'est-ce que ce passage-là veut m'enseigner sur Christ lui-même? Et souvent, si on a de la misère, on peut aller voir dans les commentaires de personnes beaucoup plus savantes que nous, beaucoup plus expérimentées que nous, qui vont nous donner des fois des définitions qui sont très, très, très intéressantes. Alors, ayant revisé un petit peu qu'est-ce qui était un type, Aaron était un type de Christ. Mais les Saintes Écritures, dans le passage qu'on est en train de lire, sont en train de nous dire qu'il était nécessaire qu'il y ait un changement. Abandonner l'ancien système pour adopter le nouveau système. Alors, dans les versets 11 à 14, c'est vraiment la nécessité du changement. On va se souvenir que le souverain sacrificateur Aaron et ses descendants, Donc, quand il y a eu un fils, le fils a eu un fils. Aaron, depuis le début, avait, et ses descendants avaient trois principales fonctions. C'est très important de se souvenir de ça parce que ça a un lien très, très concret avec Jésus-Christ. La première fonction, c'était celle d'être le médiateur et l'intercesseur entre Dieu et son peuple, afin que le peuple puisse s'approcher de Dieu. Donc, c'était un médiateur et un intercesseur. Quand il allait, quand il passait dans la partie très sainte, c'était toujours pour être le médiateur entre Dieu et le peuple de Dieu, qui était Israël à l'époque. Deuxième chose, c'était celle de présenter des sacrifices pour les péchés du peuple. Quand il entrait dans la partie très sainte, il fallait qu'il rentre avec du sang, qu'il vidait sur le propitiatoire. C'est sûr que ceux qui n'ont pas étudié, quand on a fait notre étude sur Exode, sur le tabernacle, peut-être ça ne vous dira rien. C'était le couvercle d'or qui était dans la partie très sainte du Nouveau Testament. On ne rentrera pas là-dedans ce matin parce que ça serait trop long. La troisième chose, c'est celle de bénir le peuple au nom de Dieu. Le souverain sacrificateur, donc, était trois choses. Médiateur et intercesseur, celle de présenter des sacrifices pour le peuple de Dieu, puis bénir le peuple au nom de Dieu. Alors, si les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament remplissaient correctement ces fonctions qui leur avaient été confiées par Dieu lui-même, pourquoi était-il nécessaire d'abandonner ce système dans lequel les Juifs avaient été fidèles pendant plus de 1500 ans? Cela posait un énorme défi aux nouveaux croyants d'origine juive et des réponses claires, irréfutables et scripturaires, parce que tu passais pas n'importe quoi entre les dents des Juifs. Il y avait l'Ancien Testament à l'époque, il était très attaché aux Écritures, c'était correct. Alors, si tu voulais leur faire changer, il fallait que tu amènes des réponses claires. Pourquoi on abandonnerait ça? Ça fait 1500 ans qu'on fait ça. Pourquoi tu me dis ça, là? Sur quoi tu te bases? Il fallait que ça soit irréfutable, parce qu'on n'abandonnera pas ça. Il faut que ça soit conviction absolue et scripturaire. Sur quelle Écriture tu te bases pour nous dire ça? Psaume 110, verset 4, et d'autres passages. Alors, c'était une nécessité qui était entière et radicale. Abandonner un système dans lequel tes pères, ton grand-père, ton arrière-grand-père, depuis 1500 ans, fait quelque chose, abandonner ça d'un coup sec, eux, ils pensaient que ça avait été institué par Dieu, et ça l'avait été. Pourquoi on abandonnerait ça? Alors, il fallait que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il fallait qu'il s'attelle à la tâche, et c'est ce qu'il a fait. Versets 11 et 12, il nous dit « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique » De quoi qu'on parle, le sacerdoce lévitique, sacrifice d'animaux et tout ça. Il dit « Si la perfection avait été possible par ça, pourquoi ce serait nécessaire de changer ?» Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Alors ce changement impliquait l'introduction et l'adoption définitive de nouveautés sur trois plans. Sur le système sacrificiel judaïque, qui appelle ici dans le contexte le sacerdoce lévitique, dans le verset 11, la première partie du verset 11, sur le besoin d'un autre sacrificateur et un changement de loi. Trois choses. Alors, le système sacrificiel judaïque ou lévitique, l'auteur de l'Épître aux Hébreux se devait de démontrer à ces derniers que ce système était symbolique et prophétique de Christ. Le système avait été instauré par Dieu pour remplir des fonctions particulières qui étaient, premièrement, restreindre le péché, deuxièmement, promouvoir la piété, et troisièmement, pointer vers les différents aspects de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Quand on regarde le tabernacle, tout pointait vers Jésus-Christ. Quand on regarde le personnage d'Aaron, tout pointe vers la venue future de Jésus-Christ. Quand on regarde Melchisédek, en détail, et en étant attentif à ce qui est dit, tout pointe vers Jésus-Christ aussi. Christ est l'antitype et toutes ces choses étaient des ombres et des symboles. Elles avaient pour but de préparer le peuple de Dieu et de l'instruire sur le Christ à venir. Le système avait maintenant complété sa fonction parce que Christ, qui est la substance et non l'ombre, il faut faire la différence. Ça parle de ces choses-là comme étant l'ombre. Quand le soleil plombe sur une personne, est-ce qu'on fait une distinction entre son ombre et sa substance, sa personne? Ben oui. C'est ça que tu es en train de dire. Dans l'Ancien Testament, ces choses-là, c'était l'ombre. Maintenant, Christ est venu. Christ est la substance. Arrêtez de vouloir vous identifier à l'ombre. Identifiez-vous à la substance. Donc, Christ était maintenant venu et il avait accompli tous les symboles vers lesquels ces choses-là pointaient. Dieu va maintenant démontrer que ce système-là était plusieurs choses. Inadéquat, temporaire et révoqué. Ou si on veut utiliser d'autres mots, défunt et obsolète. Quand on dit un ordinateur, je me souviens des premiers ordinateurs que j'ai utilisés, je ne voudrais pas avoir ça dans la maison aujourd'hui, là. C'était en noir et blanc, ça n'avait aucune puissance, je pense que c'était 64K dans le temps. Aujourd'hui, même les plus petits programmes sont plus que 64K. Alors, c'est obsolète, je veux plus de ça parce que c'est fini. On est rendu à autre chose. Quand quelque chose est obsolète, il faut l'abandonner. Alors, il était, on va reprendre nos trois termes, inadéquat pour amener à la perfection. Quant à l'accès à Dieu, parce que l'accès à Dieu par le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, c'était une fois par année, et c'était aussi pour les péchés, mais seulement pour les couvrir. On va voir ça un petit peu plus loin dans le développement de l'Épître. Ça couvrait les péchés, ça ne les ôtait pas. Alors, c'était inadéquat pour amener à la perfection, c'est ça que ça dit. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, pourquoi ce serait nécessaire de le changer? Alors, quant à l'accès à Dieu, qui à cette époque-là était temporaire, quant au péché, parce que les péchés étaient seulement couverts et non pas ôtés. Hébreux 10, versets 1 à 4. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, remarquez bien les mots qu'il utilise, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Dans un petit peu plus loin, là on est rendu à 7, mais dans Hébreux 10, il va revenir avec cette idée-là, il dit, les mêmes sacrifices qu'on offrait chaque année, ça ne peut pas amener les assistants, ceux qui se servaient de ce système-là, à la perfection. Parce que ça dit dans le verset 2 d'Hébreux 10, « Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir ?» Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Voyez-vous ce que ça dit dans le verset 4, très important. « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. » Et là, il va affirmer un peu plus tard que le sang de Christ n'est pas un sang d'animal. Même si on a utilisé une image de que Christ était une brebis, était. Alors, en quoi consiste cette perfection et comment Christ, lui, l'amène-t-elle? Si l'ancien système n'était pas capable d'emmener les choses à la perfection, fallait que tu démontres aux Juifs que maintenant, par Jésus-Christ, tu étais capable d'emmener les choses à la perfection. Christ nous amène à la perfection par les cinq points suivants. La parfaite justice de Christ. Jérémie 23, verset 6. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont elle l'appellera, l'Éternel, notre justice. Dans le contexte de ce passage-là, c'est un passage prophétique qui parle de la venue future de Jésus-Christ. Et si vous allez dans l'hébreu, le mot hébreu, ici on traduit « l'Éternel, notre justice ». C'est « Jéhovah Tsikenu ». Il est en train de nous dire que Jésus, lorsqu'il viendrait sur la terre, accomplirait à notre place la parfaite justice que Dieu exigeait de chacun d'entre nous. C'est ce que ça dit. Et voici le nom dont on l'appellera. On parle de Christ, on parle du Messie. L'Éternel, Jésus est l'Éternel. Et c'est lui qui va être notre justice. Alors, quand il amène quelque chose à la perfection, c'est que les Juifs, peu importe le degré d'obéissance qu'ils pouvaient avoir envers le décalogue et l'ensemble des lois que le Seigneur leur avait données, c'était toujours imparfait. Christ, quand il est venu, il a décidé, il a voulu accomplir la volonté du Père et l'ensemble du décalogue à la perfection à notre place. Donc, il nous a amenés à la perfection dans les exigences que Dieu le Père avait envers nous. L'ancien système ne permettait pas ça. Autre chose, 2 Corinthiens 5:21, je vous mets au défi de l'apprendre, ce verset-là. C'est un verset qui dit tellement de choses profondes. Celui qui n'a point connu le péché, de qui on parle dans le contexte? On parle de Christ. Christ n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous. Qui il? Dieu le Père l'a fait devenir péché pour nous. Et lui a fait subir le châtiment qu'on aurait dû subir à notre place. Afin que nous devenions en lui, en Christ, justice de Dieu. Alors, Christ nous a amenés à la perfection en ce sens qu'il a payé l'ensemble des péchés que nous aurions dû payer en enfer pour l'éternité. Il l'a payé à notre place. Et il a accompli par sa parfaite obéissance sur la terre. Lui, il n'a jamais manqué à aucun commandement de Dieu. Tout ce qu'il a fait sur la terre, dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses actions, il n'a jamais omis quoi que ce soit que le Père lui avait demandé. Et il n'a jamais commis aucun péché secret. Vie parfaite. Et les Écritures nous apprennent que si on croit en Jésus, nos péchés ont été payés par lui sur la croix. Et la justice qu'il accomplit a été mise sur notre compte. Quand le Père nous voit, si on était véritable chrétien, il nous voit comme si on avait accompli à la perfection le décalogue, les 10 commandements. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Extraordinaire. Pourquoi il se devait d'abandonner l'ancien système? Parce que l'ancien système n'était pas capable d'emmener à cette perfection-là. Christ, lui, oui. Alors, c'était une première raison. La deuxième raison, c'était la paix parfaite. Romains 5, 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Les Juifs n'avaient pas la paix permanente. Ils avaient la paix temporaire. D'une année à l'autre, le souverain sacrificateur, il faisait toujours la même chose. Il rentrait, il allait porter le sang. Et ça, il avait la paix pour un an. Peut-être même pas un an, parce qu'il retombait dans le péché dès le lendemain. Les Écritures nous apprennent que nous, à cause de la personne de Christ, à cause de l'œuvre de Christ, nous avons la paix parfaite et permanente. As-tu le goût de retourner dans l'Ancien Testament? Moi, je n'ai pas le goût. Vous autres, je ne pense pas non plus. Autre chose que ça l'apportait, quand on parle de perfection, la parfaite lumière. Les Juifs, même ceux qui avaient la meilleure compréhension des choses concernant Christ, n'avaient pas encore reçu la parfaite lumière. On lit dans Matthieu 4, 16, ce peuple, il parlait des Juifs, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. De qui on parle? On parle de Christ. Quand Christ est apparu, le peuple qui était dans les ténèbres ont vu apparaître une grande lumière. T'as pas de la lumière physique, la lumière spirituelle. A vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Donc, la paix parfaite, la justice parfaite, la lumière parfaite, et aussi le parfait accès à Dieu. Éphésiens 2, verset 18, « Car par lui, dans le contexte où on parle de Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Hébreux 10, verset 19 et 22, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Christ, une libre entrée dans le sanctuaire. » Le sanctuaire, c'était la partie très sainte du tabernacle. Nous, on a une entrée, eux, ils n'avaient pas. Nous est permanente. Ça se dit par la route. On a une entrée, mais ça nous parle de la route. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa propre chair. On parle de Jésus-Christ. Et ça nous dit dans le verset 21, « Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs libérés, les cœurs purifiés, excusez-moi, d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Autre chose que ça l'apporte, Christ, la paix, la joie parfaite. 1 Pierre 1, verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. On ne parle pas d'une joie ordinaire. Quelque chose d'ineffable, ça veut dire que comment je serais le gars le plus savant du monde, je ne pourrais jamais trouver des mots qui seraient adéquats pour parler de ça. Ineffable, ça veut dire que c'est impossible de décrire ça. Alors, ça nous dit que nous, notre joie, à cause qu'on appartient à Christ, à cause qu'on croit en lui, en sa personne, en son œuvre, notre joie est ineffable. On ne peut pas trouver des mots pour décrire ça adéquatement. Aussi, Christ, lorsqu'il est venu, il a amené la parfaite mise en évidence de la vie éternelle et de l'immortalité. 2 Timothée 1, verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Aussi, le parfait fruit de ne se glorifier que dans le Seigneur. Vous souvenez-vous de l'attitude de Paul au moment avant sa conversion? Il était un pharisien de la loi, il était le personnage le plus strict des pharisiens, il était très strict. Et lui, il était strict et il croyait que il se glorifiait en lui-même. « Moi, j'ai obéi à la loi toute ma vie. » Il était convaincu de ça là, avant sa conversion. Quand le Seigneur le convertit, là, il s'est rendu compte que sa justice, ça ne valait pas bien cher. Il compare ça à de la boue. Autrement dit, il est en train de dire, ma conception de ma justice, de l'accomplissement, de l'obéissance au décalogue, c'était zéro quand tu compares ça à Christ. Et le Seigneur ne veut pas non plus qu'on se glorifie. À partir du moment que Paul a été converti, son ancienne façon de penser qu'il était capable d'obéir à Dieu de façon parfaite, dit qu'il l'a enterré profond. Hein? Et le Seigneur ne veut pas non plus que nous, on se glorifie. Et si on le fait, ce n'est qu'en lui. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 29 à 31. « Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » On ne peut pas se glorifier devant lui parce qu'on va rentrer au ciel. C'est pas nous qui a fait l'œuvre, c'est son Fils. Si on se glorifie, il faut que ça soit dans son Fils. Or, verset 30, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Vous, nous, aujourd'hui, la différence avec l'Ancien Testament, Paul était vraiment un représentant du peuple juif, du système du pharisianisme. Il y avait, avant sa conversion, la certitude que moi, j'ai obéi à tout ça, là, tout ce que la loi nous disait. Moi, strict, il était sévère, il pensait qu'il avait fait ça. À partir du moment que Christ l'a sauvé, il a changé d'idée. Alors, s'il se glorifiait, Christ, Paul, c'était dans le Seigneur. Et si nous, on se doit de se glorifier, c'est encore dans le Seigneur. Certainement pas à cause que nous, on a fait quelque chose de correct. Donc, on a vu qu'il était inadéquat, parce qu'il ne pouvait pas amener à la perfection. Maintenant, il faut réaliser que ce système-là avait été institué par Dieu, mais qu'il était temporaire. Le système sacrificiel lévitique n'apportait qu'un soulagement temporaire quant au péché. Ils étaient seulement couverts et non ôtés. Pas la même chose. De plus, ils devaient recommencer chaque année. Troisième chose, donc on a vu qu'il était inadéquat, on a vu qu'il était temporaire. Maintenant, il faut voir qu'il était inférieur. Ici, j'ai trouvé dans un... Si jamais ça vous tente de l'avoir, c'est un tableau que je me suis construit qui démontre, qui fait le parallèle entre la sacrificature araonique ou d'Araon et celle de Christ. On va les regarder. Il y en a 12 différences. Et il fallait qu'il leur démontre que quand tu faisais un changement, tu avais le bon changement. Voici les 12 raisons pourquoi la sacrificature lévitique était inférieure. Première raison, Aaron était un homme seulement. Christ était le Fils de Dieu, homme et Dieu dans la même personne. Voyez-vous l'avantage? Énorme. Le nouveau souverain sacrificateur est homme-Dieu qui a un trait d'union. L'autre était un homme seulement mortel. Deuxième chose, Aaron venait de la tribu de Lévi. Christ vient de la tribu royale de Juda, roi et sacrificateur. Si vous iriez dans la Genèse 49, quand on fait les bénédictions, on voit que la tribu, c'était de la tribu de Juda que viendrait le Messie, le Shiloh qu'il appelait dans le temps. C'était de cette tribu-là, la tribu royale, parce que c'était de cette tribu-là que le Messie viendrait. Alors, Christ étant venu par Juda, il était le Messie promis, il était automatiquement supérieur à Aaron de la tribu de Lévi. Troisièmement, Aaron, sa sacrificature avait été instituée d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Et ici, on voit que Christ, sa sacrificature a été instituée selon la puissance d'une vie impérissable. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Il y en a un qui était mortel et qu'il fallait que pour qu'il y ait un successeur, il fallait qu'il meure, le prochain prenait la place. Alors, c'était une succession de morts quasiment sans arrêt. Christ, lui, une vie impérissable, ça veut dire qu'il a été vie dans l'éternité. Quand il est venu sur la terre, il était vie. Son corps a perdu la vie pendant 3 jours, pas sa divinité. Alors, sa vie est impérissable en ce sens qu'elle a toujours existé, qu'elle existe encore, qu'elle continuera d'exister pour l'éternité. Si tu compares l'autre, une vie mortelle, père meurt, là, il va avoir un fils, le fils va mourir. Si tu compares à Aaron, mort par-dessus mort, si tu compares à Christ, vie impérissable, vie qui a toujours existé, qui continuera toujours d'exister. Quatrièmement, Aaron, comme ça dit dans le verset 19, n'a rien amené à la perfection. Christ a tout amené à la perfection, dans le verset 19. Qu'est-ce que ça dit? Car la loi n'a rien amené à la traduction et à l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Alors, Christ, lui, a tout amené à la perfection. Cinquièmement, Aaron avait l'incapacité à rapprocher de Dieu, du moins parfaitement. Christ, lui, ça dit dans le verset 25, il faudra aller un petit peu plus loin, mais on va le voir la semaine prochaine, ça nous dit qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Sixièmement, Aaron, sa sacrificature n'avait pas été introduite par un serment divin. Verset 21. Christ a été introduit dans son office de souverain sacrificateur par un serment divin. Christ, Dieu le Père l'a juré, ne s'en repentira point, comme on a lu dans le psaume 110. Septième différence, Aaron eut plusieurs successeurs. Alors, quand il est mort, son fils a pris sa place. Quand son fils est mort, un autre a pris sa place. Et il fallait que tu te rendes comme ça jusqu'à Jésus-Christ. Il y a eu plusieurs des souverains sacrificateurs, de Aaron à Christ, énormément. Mais ils mourraient tous. La différence, a eu plusieurs successeurs, ça nous dit dans verset 24, « Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. » Le Seigneur, Jésus, n'a pas besoin de transmettre son sacerdoce parce qu'il est immortel. L'autre avait besoin de le transmettre à cause de sa mortalité. Christ étant immortel, n'a pas besoin de transmettre sa sacrificature à qui que ce soit. Huitième raison, Aaron et ses successeurs connaissent tous la mort. Dans le verset 25, ça nous dit que Christ étant toujours vivant, il est là au ciel aujourd'hui, il est vivant. Les sacrificateurs sont tous morts. Neuvième raison, Aaron et ses successeurs étaient tous des pécheurs. Dans le verset 26, ça nous dit, Christ, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Vous la différence entre Aaron, pécheur, mortel, Christ, immortel et aucune tâche. Non seulement n'avait-il commis aucun péché dans sa vie, mais il était ce qu'on appelle impeccable, c'est-à-dire incapable de pécher. Donc, on devrait vite faire notre choix là, après cette description-là. Dixièmement, Aaron était sacrificateur d'un peuple terrestre, tandis que Christ est sacrificateur d'un peuple céleste. Onzièmement, Aaron se devait d'offrir des sacrifices quotidiennement. Christ, lui, son sacrifice a été fait une fois pour toutes, que ça nous dit dans le livre d'Hébreux, en s'offrant lui-même. C'est pas rien de recommencer dans des bêtes, puis des bêtes, puis des bêtes, puis des bêtes. Lui-même se considérait comme l'agneau. Il s'est offert lui-même. Douzièmement, Aaron avait la souveraine sacrificature, mais c'était fait avec des hommes sujets à la faiblesse. Dans leur rapport avec les autres, dans le but de les aider ou quoi que ce soit, il était faible parce qu'il était lui-même pécheur. Alors, tous ses rapports avec le peuple de Dieu étaient toujours un petit peu boiteux, tandis que, ça nous dit dans le verset 28, Christ qui est parfait pour l'éternité. Donc, dans ses rapports avec son peuple, Christ n'a jamais, on ne pourra pas dire de lui, passé ou trop, tandis que dans l'Ancien Testament, c'était toujours passé ou trop. Alors, quand tu fais la liste des 12, normalement, les Juifs auraient dû vouloir très rapidement changer. Alors, on avait parlé du besoin de changement d'Aaron, de le remplacer par... Alors, il y avait besoin d'un autre sacrificateur, comme ça le dit dans le verset 11b, la deuxième partie du verset 11. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? La sacrificature de Christ était semblable à celle de Melchisédek pour les raisons suivantes. Comme Melchisédek, Christ était à la fois roi et sacrificateur. Comme Melchisédek, Christ est à la fois roi de justice et roi de paix. Comme Melchisédek, Christ avait reçu sa fonction directement de Dieu. Car Christ l'avait reçu par décret immuable de Dieu, et comme ça le dit dans Psaume 110, verset 4, pour toujours. Alors, s'il n'avait plus besoin de l'ancien système, votre souverain sacrificateur, vous l'avez maintenant, il est là, il est immortel, il est sans péché, il est parfait. Pourquoi vous voulez revenir avec votre ancien système? Et comme Melchisédek, Christ était sans prédécesseur et sans successeur, étant éternel. Il n'y avait rien avant lui, puis il n'y aura rien après lui, parce qu'il est éternel. On parle du verset 12, et là, le verset 12 est important parce que faut le comprendre comme faut, parce que si on ne le comprend pas comme faut, on peut lui faire dire des bêtises. Hébreux 7, verset 12, « Car le sacerdoce est changé. » Donc, le sacerdoce lévitique, fallait qu'il soit changé pour le sacerdoce de Christ. Si le sacerdoce est changé, fallait qu'il y ait un changement de loi. C'est ça qu'il est en train de dire. Ici, le contexte indique clairement qu'il ne s'agit pas de la loi morale, le décalogue ou les 10 commandements. Il ne peut s'agir ici que de la loi cérémonielle, et celle-ci a été abrogée par Christ. Autrement dit, quand Christ est venu, toute cette façon de faire là, de tuer des animaux, les faire brûler, le sang, toutes ces histoires-là, Christ a clairement dit dans le Nouveau Testament que ces choses-là étaient terminées. Pourquoi on dit que c'est pas le décalogue? Parce que les dispensationalistes se servent de ce verset-là pour dire que la loi est terminée. Parce que si vous regardez le texte, « Car le sacerdoce étant changé, nécessairement il y a un changement de loi. » Et si tu dis un changement de loi, tu es en train de dire que le décalogue, qui est les 10 commandements de Dieu, qui va être permanent, qui va être pour tous les hommes de tous les temps, le but du décalogue, c'est de nous montrer nos péchés et de nous montrer notre incapacité à rencontrer des critères aussi élevés. C'était ça le but que le Seigneur avait fait. Tu ne peux pas dire que maintenant, ça n'existe plus, parce que si tu fais ça, tu fais une erreur monumentale. Ce que les Écritures veulent nous enseigner ici, c'est que tout ce qui était rattaché à l'institution de l'ancien système sacrificiel, c'était maintenant terminé. On l'a dans Colossiens 2, versets 14 à 17. Ici, on parle de Christ, il dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Dans Éphésiens 2, aussi, versets 14 à 16, il parle de Christ, car il est notre paix. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, parle de quoi là? Des deux peuples, Israël et l'Église, n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant, écoute, ça ici c'est bien important de saisir ça, il dit, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il parlait de l'ancien système, les lois cérémonielles qu'on appelait. Les lois cérémonielles, c'était tout ce que les Juifs, dans l'Ancien Testament, fallait qu'ils fassent pour s'approcher de Dieu, le sacrifice des animaux. Et ça nous dit ici que Christ a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix, et de les réconcilier l'un l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Donc, c'était une nécessité. Versets 13 et 14, on va voir que c'est une... Je pense que ce qu'on va faire, ce matin, c'est le repas du Seigneur. On va... parce que j'en ai encore trop long à dire, puis je ne veux pas couper les coins ronds. C'est un passage important. On va le reprendre la semaine prochaine. On va continuer la semaine prochaine, parce qu'il m'en reste trop à faire, et il faudrait que je coupe les coins, puis je n'aime pas faire ça. Alors, on va continuer la semaine prochaine. On va faire une petite révision de ce qu'on a vu cette semaine. Et on va continuer des versets 11 à 22. Alors, on va terminer là-dessus pour aujourd'hui. Et on continuera cette même leçon-là la semaine prochaine. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Roi, tu es notre souverain sacrificateur. Tu es là maintenant au ciel. Et tu es venu sur cette terre et tu as accompli à la perfection la loi. Tu as subi le châtiment qui aurait dû être le nôtre, tu l'as subi à notre place. Et Seigneur, s'il nous était donné de comprendre la perfection, la grandeur de ce cadeau, comment pourrions-nous comprendre, Seigneur? Parce que pour comprendre, il faudrait passer l'éternité en enfer. Et ça, Seigneur, tu nous l'as évité parce que tu as accepté de subir ce châtiment à notre place. Et comment pouvons-nous comprendre aussi jusqu'à quel point l'obéissance parfaite à la loi est une chose tellement profonde, tellement exigeante. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous éclaires, même dans cette vie terrestre, même si nous t'appartenons, que tu nous donnes de comprendre ces concepts encore avec plus de profondeur, plus d'acuité, parce que le cadeau que tu nous as fait est tellement profond. Et Seigneur, cette épître aux Hébreux est tellement riche pour nous enseigner toutes sortes de choses te concernant ta personne, concernant ton œuvre. Alors, Seigneur, on te demande de continuer à nous donner, d'aimer les Saintes Écritures et d'y passer un temps chaque jour à les lire, à les étudier, à les écouter, à les mémoriser, à les méditer. Nous avons tellement besoin de méditer ta parole, Seigneur, car on peut lire un passage comme ça 10 fois, et si on ne prend pas un peu de temps d'étudier et d'aller faire les comparaisons avec l'Ancien Testament, ça peut arriver qu'on lise 10 fois sans avoir compris une seule fois. Alors, Seigneur, on te prie de permettre que notre amour des Écritures augmente et que notre amour aussi, notre compréhension de leur profondeur, de leur richesse, tu nous donnes cela afin qu'on les aime davantage et qu'on s'y attache davantage en ces temps difficiles. Nous te demandons ces choses par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.